Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle David Rosset et j'ai la joie d'être le pasteur de cette belle communauté ici en centre-ville de Nyon. Alors bienvenue à chacun, que tout le monde puisse se sentir à l'aise aussi pour cette partie de prédication. Alors peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais on a entamé une série de prédications sur le thème de la croissance. Et ce matin, on va parler de la croissance numérique et avec Damien Gallet qui s'occupe de la mise en page du Frat News, on avait un grand débat de savoir si le terme était juste ou pas. Parce qu'on va parler de la croissance en nombre. On ne va pas parler de la croissance sur nos téléphones portables. On va parler de la croissance en nombre et pas de digitalisation ce matin. Alors comme ça, les choses sont plus ou moins claires. Et puis, j'attends qu'il y ait un prof de français ou quelqu'un qui soit érudit de la langue française qui vienne me dire si le terme est juste. Vous pouvez venir à la fin du culte. Si on parle de croissance numérique, donc en nombre, on pense tout de suite à ces exercices qu'on faisait en mathématiques. Hein, alors attends, il ne faut pas que je me plante, ce n'est pas une courbe linéaire, c'est une ligne. Quoi. Comme ça, vous avez tout de suite remarqué que ce n'était pas mon fort, les mathématiques. J'ai toujours été assez emprunté dans le domaine. Donc ça, c'est une fonction linéaire, voilà. Donc vous avez un axe X, vous mettez ce que vous voulez dessus, un autre axe fonction de X, et puis vous pouvez mettre ce que vous voulez, puis ce qui compte, c'est que ça monte. Alors la courbe linéaire, la fonction linéaire, c'est bien. Mais vous savez qu'en termes de croissance, il y a encore mieux. Ah, il y a des bons souvenirs scolaires. Exponentiel, ouais, exactement. Alors ça, c'est encore mieux que la courbe linéaire, parce qu'en termes de croissance, ça monte non seulement plus haut, mais aussi plus vite. Alors ça, c'est le summum de la courbe de croissance. Vous ne pouvez pas rêver beaucoup mieux. Puis vous voyez qu'à la fin, là, je n'ai pas le petit pointeur, mais c'est quasiment du vertical. Là, on est vraiment au top du top de la croissance. Alors, cette courbe exponentielle, par exemple pour la croissance économique, c'est le rêve de ces 7 personnes-là. Toutes les nuits, je pense qu'ils en rêvent un peu parce que le premier indicateur qu'ils regardent chaque lundi matin, voire chaque jour, c'est quelles sont les perspectives de croissance pour la Suisse. Si c'est exponentiel, mais ça fait longtemps que ça n'est plus, ils seraient aux anges. Si c'est une fonction linéaire, ils seraient déjà pas mal. Par contre, alors, si ça se tasse, là, ils commencent à avoir des cheveux blancs. Bon, ils en ont déjà tous, donc faut croire que... Ça s'est déjà tassé il y a un petit moment. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour eux. Parce que c'est quand même un peu, il faut le reconnaître, le mantra de notre époque, la croissance économique. Si vous regardez tous les programmes, puis on est en année électorale, on va parler très, très, très souvent de croissance économique parce que ça soutient X secteurs de notre économie, donc de notre vie de tous les jours, donc de notre emploi, donc de tout ce qu'on peut faire avec ces différentes choses. Alors ça, c'est la décroissance. C'est tomber par terre. Et ça, c'est un peu ce que le Conseil fédéral ne veut pas forcément. Alors ça, c'est pour le Conseil fédéral, c'est un peu notre contexte, on baigne dedans. Et puis ici, je pense que vous ne les connaissez pas tous, à part un. On peut se poser la question, comment est-ce que les pasteurs considèrent la croissance ? Alors, pour les noms, parce que je pense que vous allez me poser la question, tout derrière, c'est Fabien, Michel et puis Ézéchiel. Ils sont là, ils sont pasteurs de la Frée dans différents endroits de Suisse romande. Et puis, on peut se poser la question, sachant qu'on baigne dans cet environnement, que la croissance économique, c'est assez important, voire même très important, en quoi nous, pasteurs, qui faisons souvent des retraites pastorales, est-ce qu'on est influencés par ça ? Oui, non ? Comment ça se passe ? Alors, je vous développe quelques scoops de ce qui peut se passer en pastoral. C'est que assez souvent, quand même, on a un grand orateur qui vient, qui a eu du succès dans ce qu'il a fait. Il vient nous dire, alors, c'est génial, ici en Suisse romande, vous pouvez y arriver aussi. La croissance, c'est pour vous. Et puis, il nous booste un peu. Puis, on dit, ah, OK, ça marche. Et puis, après, on revient dans nos églises chacun. Puis, on se dit, ah, c'est pas forcément aussi linéaire que ça. C'est même peut-être un peu parfois plus compliqué. Or, on est là. Puis après, il y a l'autre côté chez les pasteurs, c'est de se dire, de toute manière, ils viennent avec leur théorie, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et puis, on préfère, comme nous, aller faire des marches dans la forêt. Non, c'était une activité officielle. Et puis, on parle de différentes choses, puis on parle de ce qui nous a été enseigné. Donc, on prend un peu de recul par rapport à ça. Mais surtout, puis je crois que là, on n'abuse pas, on essaye de voir ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à la croissance. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Quelles sont les expériences que celles et ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi ont fait par rapport à la croissance? Aussi, la croissance au niveau du nombre, la croissance numérique. Et puis, je nous invite maintenant, que ce soit sur votre iPhone ou dans votre Bible papier, à nous plonger dans la parole. Et j'ai sélectionné deux textes qui font un peu le grand écart quand on parle de croissance en nombre dans la parole de Dieu. Le premier, il est dans Actes au chapitre 2, cinquième livre du Nouveau Testament. Et voilà ce qui nous est raconté, c'est le jour de la Pentecôte. Pierre, qui est en train de prêcher, leur dit à toute la foule qui était rassemblée autour de lui, « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de beaucoup, de chacun, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils partageaient le produit entre tous, chacun selon ses besoins. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Conclusion, et le Seigneur lui-même ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Alors là, vous avez compris, c'est le pôle un peu des évangélistes. Il y a une prédication, et après la prédication, plus 3000. Ça, c'est un des records qui fait encore rêver pas mal de mes collègues. Moi aussi un peu, des fois, je dois dire, c'était quand même pas mal de se dire, Pierre, il prend la parole, et 3000 personnes, d'un coup, sont touchées par ce qu'il a dit. Donc c'est vrai que ça reste quand même dans pas mal de nos têtes, un peu en arrière-pensée, de se dire, il y a une prédication qui peut être faite et qui touche en grand nombre celles et ceux qui l'écoutent. Et puis si on prend l'opposé, c'est souvent le texte après qu'on met en parallèle, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, et c'est le verset 19 à 20. Et c'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit « Amen, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. » Donc là, on rejoint les plus 3000. Mais là où c'est les moins de 3000, c'est la réalité concrète de ceux qui se rejoignent. « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Or ça m'arrivait souvent quand il y avait un peu des ratés dans la programmation au niveau du groupe de jeunes, tant qu'on était deux ou trois. Et puis on était contents parce qu'on pouvait prendre ce verset-là, puis se dire « Ah, c'est bon, on est quand même à la bonne place, et puis on n'a pas totalement raté notre truc. » Alors, c'est un peu le verset de consolation quand on se dit « la croissance, ce n'est pas si évident que ça ». Vous voyez bien, les deux extrêmes, et nous, on navigue au milieu. Et puis là, j'ai pensé à notre très cher Freddy Girardet, qui souvent prenait la parole pour prier, et puis il priait, dans mon souvenir, comme ça, je ne pense pas que c'est exactement ces mots, mais il disait « Seigneur, tu nous dis que là où deux ou trois sont rassemblés, en ton nom, tu es au milieu d'eux, et nous sommes bien plus que deux ou trois, alors gloire à toi. » C'est pas mal, hein? Il pose une vérité biblique, il regarde la réalité, et il rend gloire pour cette croissance qui vient en plus. Et je trouve qu'une fois de plus, c'est des phrases qui m'ont marqué de sa part, c'était d'une grande sagesse, parce que s'il y a comme une forme de synthèse de ces deux textes, plutôt que d'opposer l'un à l'autre, tu nous dis que là où deux ou trois sont assemblés au milieu d'eux, tu es là, et nous sommes bien plus que deux ou trois, alors gloire à toi. Cette croissance, elle a plusieurs caractéristiques au niveau biblique et c'est assez intéressant de pouvoir les faire ressortir du texte parce que je pense que ça influencera, et je l'espère, notre manière de concevoir la croissance aussi au niveau numérique. La première caractéristique, c'est que la croissance en nombre, elle est le résultat direct de l'annonce de l'Évangile, de l'annonce de la bonne nouvelle de ce que Dieu fait à travers son Fils Jésus pour chacune et chacun d'entre nous. Et ça, c'est couplé à l'action du Saint-Esprit. Donc Pierre parle et le Saint-Esprit agit. Mais il ne parle pas n'importe, dans n'importe quelle direction. Il parle en vue d'annoncer de ce que Jésus a fait par sa mort, par sa résurrection, pour chacun et chacune. Donc il prêche le salut. C'est ce qu'on appelle par le salut, c'est-à-dire qu'on a besoin de Dieu pour nous sortir de là où nous sommes. On est dans un état de dépendance. Puis il ne prêche pas beaucoup plus que ça. Hein. Il fait toute une histoire du peuple d'Israël qui attendait le Sauveur, mais ensuite il va à l'essentiel et il dit « La conséquence, c'est que vous puissiez demander le baptême, comme on l'a vécu au mois de juin, et puis que vous puissiez mettre votre vie en accord avec ce que vous pensez et ce que vous croyez. » Donc, c'est jamais, et puis c'est là que des fois on est un peu déviant dans nos pratiques d'église, c'est jamais un objectif de croissance. Ils ne se sont pas dit quand ils étaient dans la chambre haute, « Alors, les gars, on est 12, on va élaborer un plan d'évangélisation de Jérusalem. Toi, tu prends ce quartier-là, ce quartier-là, ce quartier-là, ce quartier-là. On y va, on se répand, et puis on va l'annoncer dans tous ces quartiers, comme ça on aura un impact phénoménal. » Non. Si vous lisez bien le texte d'Actes, ils sont plutôt dans leur chambre haute, un poil paumé. Ils se demandent ce qui leur est arrivé. Et tout à coup, le Saint-Esprit descend sur eux. Ils commencent à parler en langue et ils sortent. Donc, il n'y a aucune stratégie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de stratégie, mais là, c'est intéressant de voir que l'action de Dieu se joue complètement des stratégies. Il n'est pas en train de dire aux apôtres, comme parole à annoncer, « Allez-y, vous allez aller là, 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 et vous allez suivre ce plan, et ensuite, ça va marcher. » Rien du tout. Ils demandent de la disponibilité, ils sont dans la chambre haute, ils reçoivent le Saint-Esprit, et ensuite, ils y vont. C'est assez différent comme processus quand même, hein. Je ne sais pas si vous remarquez. Mais ils ne sont pas en train de maîtriser le processus, ils sont en train de se mettre disponibles pour Dieu afin d'être envoyés. Alors, cette question des objectifs, elle est un peu tricky, elle est un peu difficile à appréhender parce que tout dans notre société nous pousse à avoir des objectifs. Hein. On a des évaluations chaque année, je pense que vous êtes aussi au courant. De, toutes les fois, on fait des points de la situation, on regarde ce qu'il en est, si oui, si non, on les a atteints ou bien pas. Mais il faut bien garder que si on prend ces éléments-là dans une culture d'église, c'est complètement de notre époque et puis aucunement biblique, j'ai envie de dire. Parce que Dieu, il ne fonctionne pas vraiment de cette manière-là. Donc, on peut le prendre, mais je pense qu'il nous faut rester conscients que ce n'est qu'un outil, puis qu'en plus cet outil, ben, il est parlant pour notre époque, donc ça peut être utile parce qu'on n'est pas imperméable à ce qui se passe, mais il reste complètement dépendant de la mentalité de notre époque. Par exemple, j'ai des collègues qui sont actuellement dans un projet qui s'appelle « Europe shall be saved », c'est-à-dire « L'Europe doit être sauvée », puis eux, ils se sont fixés comme objectif de 100 millions de nouveaux croyants, de conversion ces prochaines années. Alors c'est énorme, on se demande. Le point positif, c'est que ça mobilise. La preuve, c'est que je me souviens de leur slogan. Mais l'écueil, c'est de se dire « ça vient directement de Dieu, cet objectif », puis là, je dois bien avouer que j'ai un peu plus de doutes parce que ça me paraît tellement perméable avec notre société actuelle que j'ai peut-être un peu plus de doutes. Même si, évidemment, la consécration des initiants de cette évangélisation ne fait aucun doute pour moi. Après, le moyen, il faut essayer de discerner ce qui vient des hommes, ce qui vient de Dieu, une fois de plus. Pour terminer, c'est la conclusion de chaque petit passage. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les actes, la conclusion de chaque petit passage où Dieu agit à travers Pierre et sa prédication, je ne sais pas si vous avez remarqué, conclusion, et le Seigneur ajoutait, trois petits points, 3000 personnes, ou bien furent ajoutées au peuple de Dieu. Donc il y a un passif de se dire que l'homme, par ses propres forces, il n'arrive pas à ajouter une seule personne au peuple de Dieu. Donc si on parle de croissance, il faut quand même être conscient qu'en tant qu'être humain, on est totalement dépourvu de puissance, au sens biblique du terme. Et je pense que ça, c'est assez salvateur de le savoir par rapport à comment on se positionne en tant qu'être humain sur ce terrain-là. Tout, que ce soit 3 ou 3000, vient de la puissance de Dieu qui convainc les cœurs et qui convainc les personnes de changer de voie et puis de s'ouvrir à sa présence. Même si Pierre, il a été convaincant par ses arguments, même si Pierre, il était certainement un excellent orateur comme il n'y en a jamais eu d'autres, la conclusion de chaque passage, le Seigneur ajoutait à son peuple tant et tant de personnes. Dieu est non seulement à l'origine par l'action de son esprit, et ça veut dire que personne ne peut lui forcer la main sur cette question-là. C'est Dieu qui reste totalement souverain sur cette question de la croissance dans l'Église. Ce n'est pas nous, par nos techniques, qui vont réussir à avoir plus ou moins de croissance. Donc la croissance, finalement, elle se reçoit. Ça signifie que Dieu est à l'origine et ensuite qu'il la donne à l'Église. Il la donne à sa communauté qui est en train de se créer. Et puis nous, je pense qu'on est toujours dans la même situation, c'est qu'on place notre confiance que Dieu est à l'origine de cette croissance et que notre rôle, en tant qu'Église, c'est de la recevoir comme un don. Et ça, on va voir après, quand on va parler un peu des freins à la croissance, que de poser comme socle que la croissance, ce n'est pas une menace, que la croissance, ce n'est pas une succession de problèmes, mais que la croissance, c'est un don, ça change complètement notre manière de voir les choses. Elle est à accueillir et nous à être disponibles à l'action de Dieu. La communauté chrétienne reçoit la croissance, qu'elle soit de une personne ou de 10 000 personnes. De nouveau, l'importance du nombre, elle est fortement relativisée. Que ce soit 2 ou 3 ou que ce soit 10 000, Dieu attend de nous que nous puissions accueillir cette croissance qui vient de lui parce qu'il en est à l'origine. Un don, donc c'est quelque chose qui se reçoit, on a plus de facilité pour des choses palpables. Si vous me donnez un chocovo, un lovo maltine, je serai très content, puis ça sera directement palpable et je le recevrai. Je pense que la croissance, c'est la même chose, elle se reçoit de la même manière. Un don que l'Église peut accueillir. Et en disant ça, on dit beaucoup de choses. Parce que, et puis ça c'est d'autres collègues pasteurs qui l'observent, il y a beaucoup de freins possibles à cette croissance lorsqu'on parle de croissance à l'intérieur de l'Église, et notamment de croissance numérique. La première, une des premières objections qu'on fait à la croissance numérique au sein de l'Église, c'est que ce sera impossible, bon ça c'est la première réaction à chaud, puis après on redescend un petit peu parce qu'on réfléchit, mais difficile à gérer. Puis ça c'est vrai, c'est même complètement vrai. Si on est 3 à un endroit, ou bien si on est 30 à un endroit, on aura des caractéristiques d'organisation assez différentes. Si j'invite à la maison 2 personnes ou 20 personnes, je n'aurai pas la même masse de travail à faire et puis j'aurai peut-être besoin d'aide. Puis là, on rejoint l'interpellation de Marie ce matin avec cette idée des feuilles mortes, de se dire comment est-ce qu'on peut se mettre au service. Là, on a besoin d'élargir finalement le nombre de personnes qui sont d'accord de mettre la main à la pâte. Parce que tout seul, ou bien le petit groupe dont on avait l'habitude d'être ensemble, on ne va pas y arriver, on est obligé d'élargir nos cordages pour pouvoir accueillir ces différentes personnes qui viennent et qui nous sont de nouveau données. Ce n'est pas des poids puisqu'elles nous sont données, puisqu'elles viennent de la part du Seigneur. Et puis, si on continue la lecture du livre des Actes, on se rend compte que la prédication de Pierre, excellente, elle touche 3000 personnes. Ensuite, elle touche encore quelques dizaines, voire centaines d'autres personnes. Et puis, 3-4 chapitres plus loin, on retombe un peu sur terre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué en lisant un peu à la suite, mais au chapitre 6 des Actes, il commence à y avoir des problèmes. Puis là, c'est assez intéressant, c'est des problèmes 100% organisationnels. Puisqu'il se rend compte qu'avec cette explosion du nombre, il commence à y avoir des soucis pour servir de la nourriture aux gens. Et puis là, ils ne savent pas exactement comment faire parce que tout le monde n'a pas reçu la même part de nourriture. Certains se sont servis plus que d'autres. Et puis, en plus, on a délaissé des plus faibles dans cette distribution de nourriture. Donc ça, c'est toujours une caractéristique de l'espèce humaine. Généralement, quand il n'y a pas assez et qu'on se précipite, c'est les plus faibles qui en pâtissent. Et ça, au niveau des valeurs fondamentales que les apôtres ont essayé de transmettre, c'était une grave incohérence. De se dire que il y a effectivement cette annonce du salut, ça porte du fruit, mais ensuite, dans les faits, on n'est pas capable d'assumer le fait que tout le monde puisse avoir un accès égal à un bien aussi essentiel que la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent s'organiser et mobiliser plusieurs autres personnes pour les mettre au service des tables. Et pour ce service des tables, il faut des personnes qui soient consacrées et qui aient une excellente connaissance. Donc ça, ça nous dit encore en filigrane que pour n'importe quel service, il y a besoin de cette consécration et qu'il y a une forme d'égalité dans les services dans l'Église des premiers temps. Donc, ce serait intéressant si vous retournez chez vous, puis que vous lisez ce fin du chapitre 2, puis vous lisez le début du chapitre 6, vous verrez que ces problèmes concrets, pratiques, d'organisation, ils arrivent et simplement, ils ne sont pas mis de côté en disant, de toute manière, ce qui nous intéresse, c'est la croissance. Ils sont traités parce que pour qu'une croissance puisse être soutenue, il faut qu'elle soit cohérente sur la durée. Si elle est juste comme ça, ça va faire comme ça, puis on va se décrédibiliser après. Donc ça, il y a vraiment un enseignement très profond qui se joue là au niveau purement organisationnel. Donc oui, ce frein, il est réel. Oui, il existe. Et puis oui, également, on est encouragé à, d'une certaine manière, le dépasser dans le sens de faire mieux avec plus. Et puis le deuxième grand frein qui est observé, puis il est encore un peu plus profond, d'après moi, c'est que lorsque une église croit, ça pose beaucoup de questions qui sont tout à fait de nouveau légitimes et profondes sur l'identité de l'église. Quel type d'église on est? Est-ce qu'on est une église tribu où tout le monde se connaît bien et puis on peut être un peu une grande famille, même si on est 80 à table, d'une certaine façon? Ou est-ce qu'on commence à sentir un peu une forme de malaise parce qu'on va dans la même église et puis on ne connaît plus vraiment tout le monde de manière personnelle? Donc là, c'est vraiment un seuil d'église qui est problématique au niveau de la communion fraternelle, parce qu'on est dans une tension, parce que c'est observé qu'on peut avoir des relations, je dirais, de qualité avec un nombre X de personnes, mais au bout d'un moment, ça dépend chacun des personnes, ça sature et puis on n'arrive pas, parce qu'il y a trop de monde et puis qu'on est limité socialement, on n'arrive pas à connaître tout le monde. Et puis là, quand on est dans des problématiques de croissance, ben c'est vrai que c'est des questions qui se posent au niveau de l'ambiance et de l'atmosphère intérieure à l'Église, de dire comment est-ce qu'on gère ces éléments-là. Or, avec le conseil, il y a un auteur qui nous a pas mal aidé, qui s'appelle Christopher Short, ou Chris Short, qui est en France, puis qui a eu une Église qui a passé tous ces seuils de croissance-là. C'est vrai qu'il nous a pas mal aidé déjà à identifier le fait qu'il y a un vrai malaise de passer d'une taille à l'autre, et puis que ce n'est pas si évident que ça de passer d'une taille à l'autre, que ce soit dans un sens ou dans un autre finalement, parce que ça peut être dans un sens de croissance, puis suivant la saison, dans un seuil de décroissance, les deux, d'après moi, on doit être ouvert à accepter en tant qu'Église. Mais toujours est-il que c'est bien de pouvoir les identifier, les analyser, puis de se dire, c'est ce que j'ai aussi envie de vous dire ce matin, que ces freins sont vraiment légitimes. Il n'y a pas de jugement moral ou quoi que ce soit sur ces freins, ils sont légitimes et c'est normal de se poser des questions par rapport à cela. C'est normal et même c'est sain de se poser des questions par rapport à ça. Puis si on prend pour nous encore un peu plus concret notre situation à Nyon, ce qu'on doit observer, c'est que la population de notre ville, elle augmente. J'ai encore lu les statistiques là, au niveau suisse. On est une des communes qui a la plus grosse augmentation de la population ces dernières années et de loin. Donc juste pour l'année 2018, c'est plus 3% de population, alors que c'est énorme hein, à l'échelle d'une ville. Et puis, si on prend sur les 5 dernières années, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on peut tous constater qu'il y a une forte augmentation de la population. Donc, il y a peut-être aussi une relation de cause à effet. Hein. Et puis, deuxième point essentiel dans notre, analyse très pragmatique, c'est qu'on a la chance. Puis, on a considéré, il y a 2 ans, quand on a fait les travaux, que c'était une chance d'avoir cette situation ici en centre-ville. Donc, qu'on a envie de donner ce témoignage ici en tant que chrétien au cœur de la ville. Simplement, il y a une petite conséquence, c'est qu'on a remarqué que ce bâtiment, on ne pouvait ni l'élargir, ni l'allonger, ni le rehausser. Donc, il va rester comme il est maintenant. Donc, ça, c'est la deuxième caractéristique qu'on a aussi traitée en conseil, où on se dit, ben, on a ces éléments-là, comment est-ce qu'on vit avec, comment est-ce qu'on essaye de faire la part des choses. C'est notamment au niveau des groupes d'enfants qu'on a le plus de soucis de place. Marie l'a dit ce matin en annonce, où le groupe des explorateurs doit un peu se répandre dans le lounge parce que sinon, il n'y a pas assez de place pour eux dans la petite salle qui leur était dévolue. Donc, on doit un peu s'adapter, on doit un peu essayer de trouver des solutions, si possible, créatives et qui vont pour tout le monde. Donc, on est déjà un peu dans ces caractéristiques-là. Alors, avec tout ça, quelle pourrait être ma conclusion ? C'est qu'en acceptant que la croissance est un don de Dieu, c'est qu'on, d'après moi, on ne peut pas résister à cette direction-là. Si on considère, puis qu'on le croit fortement, qu'elle vient de Dieu et puis que c'est un don, on ne peut qu'accepter de grandir, puis d'accueillir cette croissance, pas comme une menace pour mon identité ou pour mes problèmes organisationnels, mais comme un don de Dieu qui va nous pousser à aller de l'avant. Accueillir la croissance, donc aussi numérique, pas se réfugier dans la croissance qualitative, parce que ça, c'est le deuxième, ce sera encore un frein des chrétiens, c'est de se dire, on a un peu peur de la croissance numérique, donc on va se réfugier dans la croissance qualitative de la personne, d'approfondir sa vie de foi et tout, puis c'est un frein qui est assez redoutable, parce que finalement, est-ce qu'on rentre dans le plan de Dieu en étant avec ce frein-là ? Je ne suis pas vraiment sûr. Pour moi, l'un ne s'oppose pas à l'autre. Donc, on ne doit pas se réfugier dans une croissance en profondeur parce qu'on a peur de la croissance numérique. Je crois que quand on l'accepte vraiment comme don, ça signifie beaucoup de choses. Parce qu'on peut l'accueillir telle qu'elle est, indépendamment, finalement, des problèmes que ça peut poser. Et puis, le deuxième point que j'aimerais nous encourager à voir, ce n'est pas tout de suite à aller sur des solutions très pratiques ou pragmatiques. Là, on en essaye avec les explorateurs, mais c'est des petits détails. Mais c'est de se dire que, comme il a donné des moyens aux apôtres de trouver des solutions au niveau des problèmes organisationnels, je pense qu'il va aussi nous donner des moyens, des ressources pour que nous, en tant qu'Église, on puisse assumer ce rôle qu'on a cru recevoir de Dieu, d'être une présence chrétienne ici au cœur de la ville. Je pense qu'il va nous donner les ressources, les moyens pour se dire « Votre mission, c'est la mienne, c'est moi qui vous l'ai confiée » et puis qu'on pourra élargir nos cordages, élargir nos ressources, élargir ce que nous avons besoin pour finalement accepter de grandir. Amen.